Pour cela, nous sommes vos ennemis. Nous sommes contre vos idées, contre vos pensées, vos obscénités, votre chrétienté, votre violence. Nous refuserons toute idée d'une vie qui serait fatalement réduite au minimum vital.
Trop, et c'est un mort pour un oracle.
Les flics tabassent, sortent le P38 et le flic qui flingue de glace.
Les flics, la police, c'est le vice.
Et par des keufs se font paner, c'est connu, dans le Parisien t'as des histoires comme as.
La route de guette, mec, les flics aussi.
Vois du rouge, aussi rouge que vos bavures.
J'ai mal au cœur quand un frère meurt. Pour eux, un accident de travail, à t'en faire peur de sortir sans pare-poigne.
Bonjour tout le monde, coucou.
Bonjour, coucou.
Il est midi, c'est jeudi, c'est l'heure de l'émission du numéro 0, comme un jeudi sur deux, bien sur les ondes de Radio Dio, sur Saint-Etienne, et sa proche région quand même, on peut le dire. Aujourd'hui, dans cette émission du numéro 0, nous allons revenir sur une chose dont on a déjà parlé il y a 15 jours. Il s'agit du fameux procès des inculpés du centre de rétention de Vincennes. Nous avions déjà annoncé qu'il y allait avoir une soirée de soutien à ces inculpés. C'était le jeudi 21 janvier à la dérive. Il y a eu pas mal de monde, c'était assez intéressant sur le contenu. On voulait aussi, aujourd'hui, parler de ces procès qui ont eu lieu lundi, mardi et mercredi, donc hier. C'était à Paris. On parle des inculpés de Vincennes parce que des retenus de ce centre de rétention dans la région parisienne ont été accusés d'avoir mis le feu parce qu'il y a eu un incendie qui avait tout ravagé. C'était en juin 2008. Ces trois jours derniers se tenaient les procès à Paris. Peut-être on peut dire ce que c'est un centre de rétention, par exemple.
Ouais, mais c'est toi qui as mon papier. Non, en gros, un centre de rétention, c'est une prison spéciale pour étrangers où on place sur décision administrative et non pas judiciaire les personnes étrangères que les autorités veulent renvoyer dans leur pays. Donc voilà, c'est un endroit où sont enfermés les gens maintenant pour 32 jours, je crois. Et il y en a de plus en plus en France, ils sont de plus en plus remplis. Et donc à rappeler que quand ce centre de rétention de Vincennes a brûlé en juin 2008, on l'a déjà dit mais on le répète, c'était dans un contexte de mouvement de protestation à l'intérieur des centres de rétention en France et de mouvement de solidarité à l'extérieur.
Et d'ailleurs, Vincennes n'est pas un cas isolé puisque Bordeaux aussi... le centre de rétention a brûlé. Alors je ne sais pas s'il a brûlé dans son intégralité, parce que quand même le cas quand même de Vincennes, il faut le rappeler que le centre de rétention a brûlé dans sa totalité et que c'est 240 places de rétention qui sont parties en fumée. C'était au moins déjà ça de moins dans la machine à expulser quand même.
Ouais, il y avait le centre de rétention du Ménilamlot aussi dans la région parisienne, qui a aussi brûlé, mais partiellement, peu avant suite Vincennes. Et justement, il y avait eu apparemment une volonté d'étouffer plus l'affaire que de la réprimer aussi fortement. Et justement, là, l'incendie du centre de rétention de Vincennes donne lieu à un procès, vraiment un gros procès, avec des risques de peine super lourdes. Donc c'est de ce procès dont on va essayer de rendre compte aujourd'hui.
Voilà.
Et ensuite, on rendra compte de la semaine de solidarité qui a aussi eu lieu, en solidarité avec les inculpés de Vincennes. Et ensuite, parce que tout est lié, on parlera plutôt des grèves de sans-papiers, travailleurs, qui manifestent pour leur régularisation. Donc il y a des bruits dans le casque.
Il y a un petit bruit bizarre, sachant qu'il y a des travaux à côté.
Il y a des travaux à côté, c'est très déstabilisant. Mais bon, je ne sais pas, on y va, on parle du procès ?
Eh bien oui, donc voilà, donc hier, voilà, à Paris, jusqu'à hier, c'était les procès. Apparemment, ce n'est pas fini ces procès, il y en aura d'autres, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Donc en gros, il y a eu le procès des inculpés de Vincennes, donc de l'incendie du centre de rétention de Vincennes. C'était du lundi 25 au mercredi 27, donc hier, et puis c'est pas fini. Donc, en gros, revenons au début. Donc, incendie du centre de rétention en juin 2008. Les autorités, bien sûr, ont besoin de trouver des coupables. Depuis ça, il y a 10 personnes qui ont été inculpées et arrêtées. Et donc, ces 10 personnes ont fait, selon les cas, de 4 à 11 mois de détention provisoire, donc sont allées en prison. Et une de ces personnes, Nadir Othmani, lui est resté en détention provisoire jusqu'au procès. Donc, il avait été arrêté en juin 2009, je crois. Donc, il était en prison depuis. Donc, déjà, à savoir que leurs conditions de détention, elles ont été très difficiles. Bon, comme la plupart des gens qui sont en prison. Mais... Par exemple, on leur a mis... ils ont eu beaucoup de difficultés à obtenir des parloirs. Leurs demandes de liberté provisoire ont été très difficiles à obtenir. Donc, par exemple, Nadir Othmani, lui, n'était toujours pas sorti quand il est passé en procès. Ils étaient sous contrôle judiciaire, un contrôle judiciaire très strict et en plus assez aberrant, vu que, par exemple, on a dit à l'un... Il y en avait un qui devait aller signer au commissariat régulièrement, comme ça se fait quand on est sous contrôle judiciaire. Et puis, quand il venait au commissariat, on lui disait « Mais on peut pas, vous pouvez pas signer, vous avez pas de papier, on n'est pas sûr que c'est vous. » Et après, on lui reprochait de pas respecter son contrôle judiciaire. Enfin, des trucs comme ça. Et ensuite, bah, savoir que l'instruction, c'est l'enquête qui est menée par des magistrats pour emmener jusqu'au procès. Selon les avocats de la défense, cette instruction, elle a été menée à charge. C'est-à-dire que normalement, l'instruction, on rassemble les pièces qui sont en faveur de la défense et en faveur de l'accusation. On les met en équilibre un peu. C'est tout ça en théorie la justice. Et là, les avocats ont dénoncé unanimement le fait que c'était très déséquilibré. Donc, les 10 personnes qui ont été accusées d'avoir participé à l'incendie, les seules preuves contre elles, c'est des témoignages de policiers présents au centre de rétention et une partie des bandes de vidéosurveillance qui étaient dans le centre de rétention, mais seulement un montage de 15 ou 30 minutes, je crois, qui a été fourni par les policiers. Donc, déjà, les avocats réclament les 24 ou 30 heures de bande vidéo et pas juste un petit montage qui forcément est partial, quoi.
Donc quand on dit procès à charge, ça veut bien dire un procès déséquilibré dans les pièces, c'est ça?
Voilà, où les pièces, en fait, les avocats de la défense disent, nous on a réclamé plein de pièces qui étaient en faveur de nos clients, et en fait les seules pièces qui sont versées au dossier, déjà elles sont très peu nombreuses, et en plus c'est toutes des pièces à charge, c'est-à-dire contre les gens qui se défendent, quoi. Et par exemple, pour donner encore un exemple, peu avant l'incendie du centre de rétention, il y avait des personnes qui étaient enfermées là-bas, qui avaient porté plainte par rapport à leurs conditions de détention. Ça éclaire quand même les raisons pour lesquelles on en vient à un incendie qui ravage complètement le centre de rétention. Et ben, ces plaintes, elles n'ont pas été versées malgré les demandes des avocats, elles n'ont pas été versées dans l'instruction. Il faut rappeler que quand le centre de rétention a brûlé, c'est suite aux protestations des retenus, parce que la veille, un enfermé qui s'appelle Salem Souli, il est décédé parce qu'il était malade et qu'il réclamait des soins qu'il n'a pas obtenus. La famille de Salem Souli a été au courant du décès donc du membre de leur proche seulement 4 mois après et par hasard. Donc, elle a porté plainte pour rétention d'information, homicide involontaire par manquement aux obligations de sécurité et omission de porter secours. Et cette plainte a été classée. Et pareil, cette plainte qui est quand même l'étincelle qui met le feu aux poudres, elle n'est pas versée au dossier de l'instruction du procès des personnes accusées d'avoir mis le feu au centre de rétention. Donc, en gros, les avocats, ils ont dit dès le début, c'est n'importe quoi. Ils ont aussi demandé des expertises pour la propagation du feu, pour dire où a pris le feu, etc. Pareil, ils ne l'ont pas eu. Bon, voilà. Donc, juste avant que le procès commence lundi, déjà, il y avait le collectif de soutien aux inculpés de Vincennes qui s'est monté il y a un bon moment déjà pour les soutenir, qui se sont exprimés très inquiets parce que les peines encourues étaient des peines de prison très lourdes. Voilà. Donc, tout ça nous mène au procès. Donc, des peines de prison très lourdes, entre autres, parce que l'État, en fait, voulait réprimer très fort cet incendie, parce que déjà, c'est pas rien. Une prison qui part en flammes, ça fait longtemps qu'il n'y en avait pas eu en France. Et qu'en plus, donc symboliquement, c'est fort. Matériellement, bah, c'est très fort, c'est très important. Et qu'en plus, 260 places en centre de rétention étaient supprimées par le feu. Pendant plusieurs mois, elles manquaient, ces places. Et par exemple, la police a été obligée de moins arrêter de sans-papiers. Donc ça a vraiment enrayé la machine à expulser pendant un temps. Et il y a des interprétations qui disent que c'est aussi pour ça qu'il faut réprimer fortement, même si on n'a pas les vrais coupables, il faut des coupables, quoi.
C'est la logique d'État. Et donc, mais quand bien même il serait entre... Parce qu'on disait tout à l'heure... On n'a pas de preuves sur leur culpabilité, machin. Mais je pense que, quand bien même, ils seraient coupables, je sais pas, ou ils auraient participé. Je pense qu'il n'y a pas. Enfin, c'est normal, et même que. Enfin, de vivre dans des conditions pareilles, c'est inacceptable, inhumain, et il faut faire quelque chose. Et donc. Enfin, moi, je pense qu'il faut être solidaire, quoi qu'il soit, enfin, quels que soient les motifs et puis les actes, quoi. Sinon, sur le procès. Donc il y avait donc pendant 3 jours, le procès a commencé le lundi dernier, et pendant 3 jours il y avait entre 80 et 100 personnes tout le temps présentes aux abords du tribunal
en soutien,
ouais, en solidarité. C'est des personnes qui sont venues qui sont de Paris, mais il y a beaucoup de personnes qui sont venues d'ailleurs, et donc sur ces 100 personnes, et ben il y avait que 10 personnes qui pouvaient rentrer dans la salle d'audience, parce que il y avait les policiers, les journalistes. Alors il y avait plein de journalistes et qui prenaient plein de place. Et donc, sur les personnes qui sont venues en solidarité, il n'y avait que 10 personnes qui pouvaient rentrer. Le reste des 100 personnes étaient dans le hall du tribunal. Et alors, dans ce hall-là, bien sûr, apparemment, c'était comme une genre de prison, parce que les gens ne pouvaient ils pouvaient sortir, mais ne pouvaient plus rentrer. Ils n'avaient même pas le droit d'aller aux toilettes, ne pouvaient pas rentrer. Et donc il y a eu des slogans, il y a eu des... Donc ça a chauffé un petit peu dans le hall du tribunal, et donc la police était là, bien sûr, pour réprimer, enfin, comme d'habitude, quoi.
Il y avait un slogan, je trouve, qui était très significatif de l'ambiance et de l'esprit des gens qui étaient là en soutien. C'était « Liberté avec ou sans papier ». Voilà. Et voilà, je trouvais pas mal.
Ouais, voilà, donc... Il y avait des slogans, ça a été les policiers ont tenté plusieurs fois d'arrêter des gens. Hier il y a eu avant-hier il y a eu une arrestation, et hier aussi il y a eu 9 arrestations, mais où il y a eu des tags autour du tribunal et un peu à côté, et donc les flics ont arrêté 9 personnes au hasard, et ces personnes-là n'avaient rien à voir avec le procès. Elles étaient venues pour un autre procès. Donc pour dire que bon, bah, quand même, c'est quand même paradoxal. Enfin, ça montre bien le fonctionnement de un peu de la police et puis de leur justice, quoi. Et au même titre que, par exemple, une des personnes qui devait comparaître le lundi matin pour l'incendie du CRA de Vincennes, et ben elle a été lundi après-midi, pardon, et ben elle a été arrêtée le lundi matin à Gare du Nord, et elle était en garde à vue, donc elle a pas pu comparaître le lundi après-midi.
Et d'ailleurs, ça, c'était un peu le début des imbroglios
juridiques
des 2 premiers jours, en fait, c'est ça ?
C'est ça.
Ouais, ça fait partie, entre autres. D'ailleurs, t'as peut-être des choses à rajouter sur le soutien ou...
Oui, alors voilà, alors pendant ces trois jours-là, les personnes qui étaient mobilisées, c'est 100 personnes ou plus, parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas pu venir. Il y a eu d'autres actions, il y a eu des tags autour du tribunal, il y a eu d'autres plein de tags, plein d'actions. On en reparlera un petit peu dans le montage d'après. Mais hier soir, il y a eu une occupation d'Air France, d'une agence Air France à Paris. Donc Air France, bien sûr. Complice, comme plein d'entreprises, complice des expulsions. Donc Air France ne refuse pas d'expulser et d'embarquer des personnes expulsées sur ses avions. Et donc voilà, c'est comme, le raccourci peut être facilement fait, mais c'est comme les entreprises de train qui déportaient un petit peu les petits Français, les Juifs, les machins, qui les déportaient au camp de déportation. Et donc hier soir, une quarantaine de personnes a occupé une agence Air France. Ils ont envoyé des fax, ils ont collé des affiches, tagué des trucs, voilà. Et voilà, donc.
Et à savoir aussi que hier, il y avait une manifestation en soutien aux inculpés, place Châtelet à Paris. Et ça, c'était une manifestation assez nombreuse et à l'initiative d'un collectif à l'initiative de Sans Papiers et entre autres de Baudelic, qui est le lieu qui a été ouvert après l'expulsion des sans-papiers qui squattaient la Bourse du Travail en juin. Et donc, Baudelic, c'est un lieu où on demande la régularisation des sans-papiers ou des travailleurs sans-papiers, etc. Donc ça, d'ailleurs, on y reviendra. Mais il y a eu aussi cette initiative-là en soutien. Donc, pour revenir sur le contenu du procès, en fait, ce qui se dit à droite à gauche, autant dans les grands médias que dans les médias plus militants ou de la part des personnes présentes sur place, c'est que le procès n'a pas encore vraiment eu lieu parce qu'il a été émaillé d'incidents judiciaires. Bon, après, les procès un peu sérieux sont toujours comme ça. Hein, mais... C'est-à-dire, il y a eu déjà donc, cette personne qui se fait arrêter lundi matin en allant au procès parce qu'elle n'a pas de papier. Ensuite, il y a eu... Donc je ne vais pas m'étaler dessus, mais il y a quand même une personne, la femme d'un des inculpés, qui reconnaît la juge du procès et qui dit « Mais cette juge a déjà envoyé mon mari en prison, donc elle ne peut pas être partiale, donc ça c'est dans les lois. » Donc l'avocat demande, et tous les avocats de la défense, demandent à ce que la juge se dessaisisse de l'affaire, la juge refuse.
Et alors, juridiquement, c'est un terme qui est juridique, donc ça s'appelle « déporter ». La juge se déporte de l'affaire.
Et la juge ne s'est pas déportée.
Et elle a décidé de ne pas se déporter.
Voilà, et donc après, bon, ils ont fait, vous voyez, c'est des trucs pas très passionnants, mais de justice, où ensuite ils ont demandé au président du tribunal qu'elle soit récusée, ça n'a pas marché, et c'est un peu ce qui a fait vachement traîner le procès, quoi. Et donc ce qui a fait des reports d'audience, tout ça. Et ensuite, comme je le disais tout à l'heure, il y a très peu de pièces dans l'instruction. Les pièces, elles sont toutes à charge, donc contre les accusés. Et pendant ces trois jours, les avocats, ce qu'ils ont principalement demandé, c'est des compléments d'information, c'est de pouvoir visionner les 30 heures de vidéosurveillance et pas juste un montage de 15 minutes fait par la police, et etc. Ils ont demandé pas mal d'autres pièces. Donc voilà, on a parlé pas mal d'un procès qui n'avait pas commencé, qui était émaillé d'incidents, etc. Mais en fait, moi, je pense surtout que les avocats et collectifs de soutien, eux, ce qu'ils veulent, c'est faire de ce procès un débat sur les centres de rétention. Et aussi, c'est que les avocats qui sont dans ce procès, ils ont la niaque, en fait, et ils se battent pour pas laisser bafouer ce qu'on appelle les droits de la défense. Et en fait, hyper souvent, si tu vas dans un procès, tu vois que l'accusation est beaucoup plus forte que la défense et que la défense se défend pas très bien. Et eux, juste, ils ont la niaque. Ils veulent faire de ce procès un procès qui fait du bruit. Et ils veulent pas laisser passer. Donc, ils laissent rien passer, quoi. Et ça fait que le procès, il traîne, ouais, mais ils font leur boulot d'avocat, quoi qu'on pense du boulot d'avocat. Donc, au final, le procès, il est reporté à lundi prochain. Quelques rares compléments d'infos sont accordés. C'est-à-dire uniquement, je crois, que les 30 heures de vidéosurveillance soient visionnées. Et aussi, un des buts des avocats, c'était que Nadir Otmani, donc le dernier qui était encore en détention, il soit libéré. Donc, il a été libéré hier, donc sous contrôle judiciaire, ce qui est vraiment pas marrant. Mais au moins, il est dehors. Il comparaîtra libre. Et à savoir quand même que L'avocate qui a demandé la récusation de la juge, elle a eu 750 € d'amende, vu que sa demande n'a pas été accordée. Donc c'est quand même une sacrée punition. Et que aussi, en fait, un report de 5 jours, c'est très court avec un complément d'info.
Pour visionner 30 heures de vidéosurveillance, voilà. 5 jours.
Ouais. Et les avocats, ils ont du boulot par ailleurs, etc. Donc en fait, ils se sentent vraiment pénalisés. Enfin, tout est fait pour leur mettre des bâtons dans les roues, quoi.
Et juste pour montrer un peu, j'ajouterais juste pour montrer l'ambiance là au tribunal et de la défense, enfin de l'accusation et des juges. Et ben au début du procès, donc chacun doit se présenter, donner son nom, son identité, tout ça. Et à un moment, la juge, je crois qu'elle s'appelle Dutartre ou je sais pas quoi, ouais, qui a refusé de se déporter, rappelons-le. Et ben elle écorche le nom d'un inculpé. Et là, le monsieur en question la reprend et lui fait la remarque en lui redisant son nom et tout. Et là, le procureur, donc l'État, enfin le représentant de l'État, quoi, lui dit quand vous aurez de vrais papiers, on prononcera votre nom correctement. Et pour dire que bon, on a l'impression qu'on est dans un monde, enfin, on n'en attendait pas plus d'eux, mais quand même, c'est pourri, quoi.
Le genre de petite remarque préconçue, on dirait aussi. Ouais. Mmh.
Voilà, donc moi je voulais conclure donc sur ce procès qui finalement est donc à suivre. Donc sur trois petites remarques. Donc la première, c'est en fait donc une personne présente au procès m'a rapporté que Maître Braun, un des avocats des inculpés, lui il a dit: moi ce que je veux soulever dans ce procès, c'est pourquoi un centre de rétention vient à brûler et comment. Et le procureur, lui il a dit: moi ce que je veux savoir, c'est qui a mis le feu. Et en fait, c'est significatif, ça laisse à réfléchir et c'est significatif vraiment des positions des uns et des autres. C'est que ceux qui se défendent, les accusés, ils disent: on veut montrer qu'est-ce que c'est comment c'est la merde et pourquoi ça en vient à brûler. Et l'État veut simplement savoir qui et punir. Et voilà, et je voulais rappeler qu'à l'origine de tout ça, il y a une personne qui meurt en détention, faute de soins, et que la plainte est classée.
Et des morts, il n'y a pas que cette personne-là, il y en a eu plein, et il y en a encore. Et donc, si ça brûle, bah, c'est tant mieux, quoi.
Voilà. Je voulais juste rappeler les sources où on peut trouver des infos, où on en a trouvé. Il y a le livre « Feu au centre de rétention » aux éditions Libertalia, qui retrace toute l'histoire de centre de rétention qui brûle. Et à partir des témoignages de personnes qui étaient enfermées dedans, donc c'est vraiment intéressant. Après, il y a la radio Fréquence Paris Pluriel, si vous pouvez écouter sur Internet. Comme ils sont à Paris, ils rapportent plein de choses sur tout ça. Indie Média Nantes sur Internet. Le Jura Libertaire qui recense plein d'infos sur Internet. Et le site Migre Europe, dont des membres suivent le procès et en font des comptes rendus. Voilà, et des envoyés spéciaux anonymes qui étaient sur place.
Donc, comme on vous l'avait dit il y a 15 jours, il y allait avoir une semaine de solidarité, donc justement dans le cadre de ces procès, et c'était du 16 au 25 janvier. Et nous vous avons préparé un petit montage audio sur une musique assez sympathique de fond, dans lequel nous répertorions tous les actes, toutes les actions qui ont été effectuées pendant cette semaine. Donc voilà. Eh bien, c'est parti.
Faut pas prendre l'incendie du crat de Vincennes comme un acte détaché en fait de tout contexte. En fait, ça faisait déjà pratiquement un an que ça commençait à bouillonner,
Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, cris de rage, pétards, artifices et fusées ont été tirés en direction de la maison d'arrêt et du centre de rétention administrative de Nîmes. Quelques mots ont été laissés sur le mur d'enceinte du CRA. Feu aux prisons. Crame, solidarité avec les inculpés de Vincennes, nique la tôle. Contre tous les enfermements, Bouco crève nos bourreaux.
Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2010, peu après minuit, des feux d'artifice et des pétards ont été lancés aux abords de la maison d'arrêt de Villepinte, vers Paris, et du centre de rétention de Vincennes, accompagnés de cris « Liberté !» pour saluer les enfermés.
Samedi 9 janvier, Montreuil et ses rues a été redécoré. Une vingtaine de personnes ont redécoré le métro, les rues et les banques de Montreuil avec des centaines d'affiches et des dizaines de tags. On pouvait lire la BNP balance les sans-papiers. Feu au capital! Feu à toutes les prisons! La CGT expulse les sans-papiers de la bourse du travail. On n'oublie rien. Sans-papiers, mille feux. Non, non, non. Aux expulsions. Avec ou sans papier, liberté pour tous.
On peut pas prendre l'incendie du Kratvasen comme un acte détaché en fait de tout contexte, 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 de tout contexte.
Paris, ce samedi 16 janvier, nous nous sommes promenés dans l'Est parisien en solidarité avec les sans-papiers grévistes. Après s'être retrouvés à une petite centaine sur le chantier du tramway Porte des Lilas, nous nous sommes passés par Belleville au cri de « ni rafle, ni expulsion, destruction des centres de rétention ». Puis nous avons exprimé notre solidarité aux grévistes de Ménilmontant. Passant ensuite rue d'Avron, nous avons crié des slogans hostiles aux collabos de la machine à expulser tels que Bouygues, qui construit les prisons, ou la BNP, qui balance les sans-papiers au keuf, et en réclamant la liberté pour tous, avec ou sans pape. Une agence Bouygues a d'ailleurs subi un coup de pression. Nous avons ainsi visité deux autres piquets de grève. La circulation a largement été gênée sur cet axe, des centaines de tracts distribués, des dizaines d'affiches collées.
Le 16 janvier, à Bordeaux, une manif express rassemble une centaine de personnes. Il déambule jusqu'à un chantier de Bouygues, sur les panneaux duquel il colle de nombreuses affiches peintes à la bombe. Feu au centre de rétention, no border, no nation. Bouygues exploite des sans-papiers, sont écrits sur ces affiches.
Le même jour à Angers, une petite déambulation dans les ruelles de la ville a eu lieu. Des diffs et des collages. Des petits arrêts devant certains outils de la machine à expulser ont été faits et des slogans du type « Wanted, la poucave, montre-nous ta sale gueule de balance !»
Communiqué du groupe Richard Dorn pour le maintien de l'offensive. Paris. Dans la nuit du 17 au 18 janvier, nous avons bouté le feu à deux distributeurs de billets de la Poste. Nous avons ensuite incendié deux poubelles contre la même Poste, située rue Clavel, dans le 19e arrondissement. Avant de nous replier sous les cris des sirènes de keuf, un tag a été laissé près de la surface incendiée, précisant « La Poste balance, solidarité, Vincennes ». Que d'ici au 24 et après, tous les collabos qui se trouvent sous nos yeux s'en prennent plein la gueule, par tous les moyens qui sembleront propices et justes. Du tag au marteau, de la banderole à l'incendie, du saccage à l'affichage, des balades publiques aux balades nocturnes entre amis.
Lyon, 19 janvier. Bouygues et la BNP Paribas sont graffés, place de la Croix-Rousse, en soutien aux inculpés de Vincennes. On peut lire notamment « Bouygues construit des prisons pour sans-papiers. Enfermés, ça rapporte ?»
Le même jour à Grenoble, tôt dans la matinée, des banderoles en solidarité ont été suspendues à la passerelle de l'hôtel de ville. On pouvait y lire « Soutien aux inculpés du centre de réinsertion de Vincennes, sabotant la machine à expulser, mais aussi « Solidarité avec les sans-papes ». Le soir même, on pouvait voir également de nombreuses affiches recouvrir les murs de la ville.
Le même jour, ont été tirés des feux d'artifice pour les détenus de la maison d'arrêt de Besançon, la Butte. Toujours le 19 janvier à Bordeaux, environ 250 personnes pour une manif sauvage. Banderoles, fumigènes, flambeaux, pétards et distribution de tracts.
À Angers, les murs de la ville, les vitrines, les panneaux publicitaires, cabines téléphoniques ont été recouverts d'affiches en solidarité avec les inculpés de Vincennes. À Grenoble, dans la nuit du 20 au 21 janvier, de nombreuses banques du centre-ville, dont la BNP, Pôle emploi, Hôtel Ibis, les boutiques de Bouygues ont eu leurs serrures et ou distributeurs encollés et ont été recouverts de tags. Balance les sans-papes, solidarité avec les inculpés du CRA de Vincennes, construit des prisons pour sans-papes. Une boutique de Bouygues a eu sa vitrine cassée. D'autres tags ont été faits un peu partout dans le centre.
Le 22 janvier, à Grenoble, toujours en solidarité avec les inculpés de l'incendie du centre de rétention de Vincennes, le palais de justice de Grenoble a été recouvert de peinture rouge et du tag « Le palais de justice enterre nos révoltes, enterrons-le ».
Le même jour à Paris, dans le 13e arrondissement, une quarantaine de personnes manifestent derrière une banderole. Affiches collées, tags, etc. Aucun contrôle d'identité, aucune interpellation.
À Reims, dans le Trièves, le 23 janvier, une affiche géante a été accrochée aux abords du marché. On y lisait « Pour un monde sans état, sans frontières, sans nation et sans prison. Pour la liberté. Solidarité avec les inculpés de l'incendie du centre de rétention de Vincennes. »
Paris, 23 janvier. Dans les 9e, 11e, 12e, 14e, 15e et 17e arrondissements de Paris, 27 distributeurs automatiques de la Poste, du Crédit Lyonnais, de la Société Générale et du KIK ont été mis hors service, avec de l'acide sulfurique ou des coups de marteau. Des autocollants ont été apposés pour préciser que toutes ces banques balancent des 100 papes aux flics.
Toujours à Paris, le même jour, une manifestation s'est dirigée vers la rue Albert-Thomas, où l'antenne de la Croix-Rouge du 10e arrondissement a été redécorée par les manifestants pour rappeler la participation de cet organisme à l'enfermement et l'expulsion des étrangers.
Au même moment, à Paris, 8 poneys ont réussi à tromper la vigilance de leurs gardiens et à courir vers le périphérique pour certains d'entre eux, sur l'autoroute A4 pour d'autres. Ils ont bloqué la circulation pendant un petit moment. Ils ont ainsi voulu rappeler leur attachement à la liberté de circulation et d'installation de tous et exprimer leur solidarité avec les 10 sans-papiers inculpés pour l'incendie.
25 janvier, des jolis tags à Angers. Feu aux tôles, solidarité avec la mutinerie de Vincennes, brisons les murs. On a pu voir aussi près d'une agence Crédit Agricole délateur, et puis à côté d'une douane, paf, égale. Un pavé dans ta gueule.
À Saint-Étienne, dans la Loire, un chantier effage a été redécoré par des tags. On y lisait « Effage construit des prisons. Brisons la machine à expulser. Feu au centre de rétention. Effage collabo. » Ou encore « Effage construit les camps de la mort. » À Reims, de nombreux tags ont été observés sur les banques BNP Paribas, CIC et La Poste. Vous pouvez y lire « La Poste dénonce des sans-papiers. La Poste collabore à la déportation. BNP balance les sans-papiers. BNP collabo. CIC dénonce les sans-papiers. »
Le 27 janvier, à Lyon, la banque Le Crédit Lyonnais et la banque Postale ont eu des vitres brisées et recouvertes de tags, notamment pour dénoncer leur participation à la dénonciation des sans-papiers.
Faut pas prendre l'incendie du Crat de Vincennes comme un acte détaché en fait, de tout contexte. En fait, ça faisait déjà pratiquement un an que ça commençait à... Faut pas prendre l'incendie du Crat de Vincennes comme un acte détaché en fait, de tout contexte.
Bon, on se marque une petite pause musicale et on revient après ça.
This is a DJ Underground exclusive.
La justice pour quoi ? La justice nique sa mère. Le dernier juge que j'ai vu avait plus de fils que le dealer de ma...
1, 2, 3, 4. Assassin de la police. Flic à Paris. Assassin de la police. Flic à Paris.
Police,
Voilà, donc vous avez bien reconnu Assassin, c'est bien l'émission du numéro 0. Ah, pardon ?
C'était NTM en fait.
Ah ouais, d'accord.
C'était dans le film La Haine.
Ah, c'est NTM. Voilà, je suis vraiment à la rue là-dessus. Bon, bref, alors désolé si le micro sifflote un peu par derrière. Voilà, donc dans ce qu'on a écouté juste avant ce morceau de NTM, eh bien, on a eu un petit aperçu quand même des actions donc menées en solidarité avec les inculpés de Vincennes. Il y en a eu pas mal finalement, et on a pu entendre que, eh bien, des cibles justement portaient le nom de Bouygues entre autres, ou BNP, ou Eiffage. Et en fait, ce sont des entreprises qui collaborent sans complexe à faire marcher la machine à expulser. Donc, et quelques-unes de ces entreprises. Donc celles-là même qui construisent bien les prisons ou les centres de rétention, ou celles-là même qui y livrent les repas industriels, par exemple, comme Sodexo, eh bien celles-là utilisent aussi comme main d'œuvre eh bien les sans-papiers, les travailleurs sans-papiers. Et le 12...
C'est bien fait quand même.
Ouais, c'est bien, oui, c'est bien enroulé. donc, alors petite observation quand même, ces multinationales du BTP comme Eiffage, Bouygues ou Vinci, eh bien réalisent leur business donc dans l'ouvrage carcéral. Et eh bien, ce n'est pas étonnant qu'ils construisent aussi sur ce même modèle tout aussi carcéral, eh bien des écoles, des asiles, des HLM ou bien même des prisons, des hôpitaux. Bon, bref. Et alors en fait, on trouvait ça intéressant de revenir un peu sur une grève des travailleurs sans papiers qui a commencé le 12 octobre 2009. Ça fait quand même pas mal de mois que ça dure. C'est sur Paris que ça se passe. Et ces gens travaillent justement dans le BTP, la restauration ou le nettoyage ou la sécurité, très souvent par le biais de boîtes d'intérim. Et c'est un mouvement de grève donc qui rassemble quand même plusieurs milliers de travailleurs et travailleuses et demande principalement la régularisation de tous les sans-papiers. Ces grèves ne sont pas les premières en France. En septembre 2006, si vous avez le souvenir, en tout cas des travailleurs sans papier de l'entreprise Modelux, c'est dans l'Essonne, c'est une blanchisserie industrielle, eh bien, s'était mis en grève aussi sur le mode aussi régularisation de tous les sans papiers. Et en fait, on pourrait même remonter jusque dans les années 72 même, ou 73, en fait, parce que c'est à ce moment-là que les flux migratoires se coordonne beaucoup plus en fait avec les flux économiques. Et dans un contexte de crise, en 72, l'État français de crise économique, en 72, l'État français limite en fait tout simplement les régularisations par des circulaires qui lient tout simplement l'attribution d'une carte de séjour à la possession d'un permis de travail. Ce qui a eu pour conséquence que de nombreux travailleurs en fait se sont retrouvés dans une situation illégale en fait sur le territoire français. Donc c'est à ce moment-là qu'on a vu se multiplier plusieurs grèves. Voilà. Retour à Paris. Donc depuis octobre 2009, plusieurs milliers de travailleurs sont en grève à Paris. Il y a de nombreux piquets de grève. Ou par exemple sur le chantier du tramway de la Porte des Lilas, eh bien certains dorment et vivent carrément sur place, sur le chantier même, là où ils travaillent aussi. Donc voilà, et on trouvait ça intéressant de revenir là-dessus. Le 9 janvier 2010, donc de cette année, il y a eu une manifestation de travailleurs sans papier grévistes. Et on voulait vous diffuser un extrait de reportage radio où certains travailleurs s'expliquent sur cette mobilisation. C'est du son qui a été pris par des animateurs d'une émission qui s'appelle Cause Toujours, c'est sur Fréquence Paris Pluriel. Voilà, donc c'était le 9 janvier à Paris 2010.
Ensemble, nous inaugurons ce 9 janvier 2010, le point de départ de lutte sociale. Et nous sommes fiers de le dire. C'est nous, sans papier, qui ouvrons l'année 2010 en France par la manifestation d'aujourd'hui. Eh bien, nous souhaitons aussi, pour l'année 2010, des combats et des victoires pour l'ensemble des travailleurs de ce pays qui souffrent parce que ce gouvernement-là est un gouvernement au service des patrons. contre les sans-papiers, mais contre tous les travailleurs. L'année 2010, c'est l'année du combat, c'est l'année de la légalisation de tous les sans-papiers, c'est l'année de la réussite du mouvement de tous les sans-papiers en France, à l'île de France et à Paris. Donc, chers camarades, à partir du mois de février, à partir de ce mois-là, les organisations, les associations, les syndicats, les partis politiques vont s'unir et combattre ce gouvernement pour exiger la régularisation de tous les sans-papiers.
La manifestation d'aujourd'hui, c'est très très important. On va vers l'Élysée pour lui montrer que les sans-papiers servent à quelque chose aujourd'hui. Depuis le début d'année 2009, on a fait beaucoup de manifs. Ils nous ont promis beaucoup de choses, mais ces promesses, ils n'ont pas tenu leurs promesses, quoi, en fait.
Maintenant, on veut avoir une suite favorable pour notre demande.
10 années d'hypocrisie, 10 années de démagogie, de pourquoi la s'accuser, on n'a pas d'égalité, on n'a pas de fraternité, on n'a pas de diversité, on n'a pas de mixité. On n'a pas de partenariat, on n'a pas désaccord d'amitié.
On a le souci à tout temps. En sortant de la maison, aller au travail, on a peur. Mais ça, on a peur. D'être arrêté en tout moment. Alors que nous ne sommes pas les voleurs ni les voyous. Rien de tout. On sort seulement un bout de papier pour travailler, pour rester tranquille. Comme vous, on aimerait bien les Français, mais au contraire, on disait que les Français ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas parce qu'ils disent que non. Et ils disent qu'on n'a encore intégré. Mais comment on peut intégrer dans ces pays-là alors qu'ils ignorent la vérité? Ils ne nous aiment pas du tout. Du tout. On cotise pendant 10 ans, mais cette cotisation n'a rien. Et pourtant, c'est important pour les pays. Ça aide bien l'économie. Mais à nous, c'est juste ça qu'on demande.
On est des sans-droits, on est des oubliés, on est des exploités. Et on dira non à ce gouvernement de Sarkozy. On dira non à Éric Besson. C'est fini l'exploitation patronale. C'est fini les contrôles dans les métros. C'est fini les centres de rétention. On exige ça. C'est fini les expulsions. C'est fini les charters.
Enfants au pays?
J'ai des enfants, j'en ai 5. Je travaille pour que mes enfants ils peuvent aller étudier, ils peuvent étudier, avoir quelque chose de quoi à vivre dans mon pays que de venir en France.
Depuis combien de temps vous ne les avez pas vus du coup?
Depuis 11 ans, je suis là. Je suis là depuis 11 ans, je n'ai pas vu mes enfants. Quand je quittais mon pays, ma dernière fille, elle avait 7 ans. Et le 2 janvier, elle a eu 18 ans. Donc vous voyez ce que ça fait. Si j'ai les papiers, j'ai vraiment envie de retourner aller voir mes enfants. Parce que je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas aujourd'hui aussi. Je peux partir, mais pour revenir. Et si les enfants, c'est moi qui fais quelque chose, je trouve les petits sous que je trouve, je paye l'étude de mes enfants pour ça. Je paye l'étude de mes enfants pour qu'ils ne font pas l'immigration, pour qu'ils puissent étudier. Ils peuvent rester dans leur pays, dans mon pays, pour avoir gain de cause là-bas.
Aujourd'hui, le boulot que les Français ne veulent pas du tout faire, c'est vous qui les faites. Et puis aujourd'hui, on vous traite depuis des années comme si vraiment vous n'êtes pas du tout même des êtres humains, mais quand même les animaux de ce pays même, on les traite mieux que vous. Et que cela, vraiment, on veut que cela cesse, cela s'arrête.
Vous travaillez dans quoi?
dans les restaurations. Voilà.
Et votre patron, ça l'embête pas de ce que vous avez pas
ça fait. Embête parce que les politiques n'est pas appliquées comme il faut. Tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est faux. S'ils avaient dit que les patrons n'ont qu'à engager, de réglager les étrangers qui travaillent dur avec eux, les patrons devaient faire. Mais parce que non, le gouvernement n'a pas dit la vérité. Tout ce qui implique la vérité, ils n'ont pas dit. Mais qu'est-ce que nous, on peut faire? On savait que les patrons sont en train de nous voler. Nos droits, ils ne sont pas les droits. Ils volent tous nos droits. On n'a pas le droit. Le gouvernement vient de dire que tout ce qui travaille pendant, je sais pas, 5 ans, qui a le contrat de 5 ans, et il devait être régularisé. Les patrons devaient remplir les papiers. Mais les patrons, ils ont peur de remplir ces papiers-là parce que le gouvernement n'est pas de la vérité de tout, du tout. Il y a certains qui sont remplis les papiers, arrivent à la préfecture, ils les rejettent. Parce qu'il y a une condition qui est restée, qui n'est pas encore appliquée dans les papiers. Et les patrons ne voulaient pas donner tous ces secrets. Voilà. Il y a un secret qui circule là-bas, nous on ne le savons pas. Les patrons savent très bien. Et une fois qu'il a appliqué cela, il s'est fait piéger par le gouvernement. Et ils ont peur de ça.
Vous faites la grève en ce moment?
On fait la grève. On fait la grève, oui.
C'est quoi le restaurant?
Le restaurant, c'est Sodoxo. Sodoxo. On travaille tous les jours, hein, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Nuit et jour. Tous les jours qu'ils nous appellent, on répond oui, oui, oui. On n'arrive même pas à dire non. Parce que nous, on savait ce qui est derrière tout ça là. Le jour de repos, il nous fait appeler en disant que voilà, on a beaucoup de ça à faire, voilà, est-ce que vous pouvez venir nous donner les trucs? Oui, mais nous, on dit toujours oui. Nous sommes disponibles. Tout le temps, on est disponibles. Il nous fait non, deux, trois, allez, on te dit, allez, prends tes bagages. Tu n'as aucun droit ici, là, aucun droit. Voilà, tu n'es qu'un travailleur, si on t'appelle nous, le jour, tu devais bouger tes fesses. Et il nous faut dire non, trois fois, allez, là. C'est fini, je te virer. Et ça a raison.
Des millions, une mois de mars, des élections régionales, ce gouvernement, avec les petites pensions Sarkozy et toute la clique, essaye de récolter les voix du Front National sur le dos des sans-papiers en particulier, des émigrés en général. Mais ils n'y arriveront pas. Parce que le peuple français, malgré le fait qu'il soit anesthésié, a compris qu'il y avait manipulation. Le débat sur l'identité nationale est un flop. Ce débat honteux, ce débat antidémocratique, ce débat fascisant, islamophobe, anti-immigré, fait un flop. Besson doit retourner d'où il vient dans les poubelles de l'histoire.
Moi, je suis là pour changer ma vie. Parce que tout le monde sait que, à mon pays, ça ne va pas du tout. Donc, si je suis là, c'est pour changer ma vie. Donc, si je reste en Guinée, je risquais ma vie. Mais si je suis là, je suis libre. Donc, je suis là pour ça.
Pourquoi vous risquez votre vie?
Tout le monde sait, manifestation qui vient de passer là. Il y a combien de morts? Les innocents qui ne savent rien, les innocents qui n'ont même pas leur famille au gouvernement, ils l'ont tiré pour rien, à la balle réelle. Donc si on a eu le chance pour venir ici, donc c'est mieux. Quoi.
C'est quoi cette manifestation?
C'est contre le président actuel qui est là, là-bas, Moussa Dadis Camara. Donc les gens au pouvoir, les civils ne veulent pas voir maintenant les militaires parce que ça fait combien de années? 50 ans, presque la Guinée est en merde de leur président. Lansana Conté, après Moussa Dadis. Donc on ne voit rien. Il y a des ressources en Guinée, il y a des bauxites en Guinée. On peut vivre comme tout le monde, mais on ne sait même pas où cet argent va. Donc si on manifeste contre ça, ils tirent les gens. Donc c'est pour ça que nous on a quitté. Hein. Parce qu'on ne peut pas risquer notre vie. Voilà.
Vous pensez que la France, elle est responsable de ces gouvernements en Guinée?
Les gens accusent quand même Bernard Kouchner. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, parce que j'entends comme ça, les gens disent. Donc, en Guinée aussi, ils ont fait la manifestation contre Bernard Kouchner. Donc, peut-être, moi, je ne sais rien.
Aujourd'hui, nous avons un grand jour, un grand événement, car Sarkozy qui ne nous accepte pas de nous recevoir. Les échos sont à l'Elysée. les écoles sont à l'Élysée, les images sont à l'Élysée. Aujourd'hui, le mouvement des sans-papiers a gagné, chers camarades. C'est pour vous dire que, chers camarades, vous méritez d'être régularisés parce que vous participez à l'économie française, parce que vous n'êtes pas des criminels, vous n'êtes pas des bandits.
Chers camarades, on a éveillé et couillé à Sarkozy. On attend la réponse. On demande une audience très urgente à la lycée. Les sans-papiers, nous sommes en souffrance. La situation est très difficile. On a besoin de nos papiers aujourd'hui, chers camarades. On attend la réponse de la présidente de la République.
Nous avons manifesté avec 10 000 personnes. Vous méritez d'être régularisés. On demande à Sarkozy de régulariser ces gens, ces martyrs. Il est où Sarkozy? Donc, tout le monde à la rive Baudelaire, il y a le grand concert qui nous attend. On va danser, on va lambader. Donc, chers camarades, merci beaucoup. Le mouvement gagne. La musique!
Voilà, donc c'était donc des travailleurs et travailleuses en grève sur Paris. Je vous le disais tout à l'heure, il y a pas mal de piquets de grève qui se montent. On n'a pas trop de nouvelles, je sais pas, on n'a pas réussi à en avoir en tout cas. Si vous en avez, ben écoutez, faites-les parvenir par exemple sur le site du numéro 0, http le numéro 0 tout attaché, .l'autre.net. Voilà, donc de retour à l'émission et on va passer, je crois, à l'agenda.
Ouais, et justement, moi j'avais une dernière remarque, parce que là on a balayé diverses questions qui concernent les sans-papiers et leur lutte. Et tout à l'heure tu parlais de l'histoire qui remonte à au moins 72, voire avant. Mmh. Et je sais qu'à l'église Saint-Edmond, à Saint-Étienne, c'est dans le quartier Beaubrun, en 72 ou 73, des travailleurs tunisiens sans-papiers ont fait une grève de la faim. Pour donc contre leurs conditions de travail, pour réclamer des papiers, etc. Et c'est une lutte que je trouverais intéressante dont je trouverais intéressant de parler. Donc pareil, si vous avez des infos, des choses à raconter là-dessus, vous avez qu'à nous écrire par exemple au numéro 0. Donc soit par mail, c'est numéro 0 tout attaché. Non, pardon, n'importe quoi. Émission radio tout attaché sans accent @fastmail.net. Et sinon, on a une adresse postale à la radio, donc c'est émission numéro 0, chez Radio Dio, 14 bis rue de Roubaix, boîte postale 51 42022 Saint-Étienne-Cedex. Donc boîte postale 51 42022 Saint-Étienne-Cedex.
Et l'objet donc de l'émission d'aujourd'hui, qui était de parler du procès, eh bien, on peut peut-être attendre à ce qu'on en reparle, je sais pas, dans 15 jours par exemple.
Voilà.
Les procès des inculpés de Vincennes.
Voilà.
On est sur l'affaire.
Et donc maintenant, on va terminer cette émission numéro 0 avec un agenda vite fait, bien fait. Donc ce soir, 28 janvier, à la Cinémathèque, c'est rue Jo-Gouttebarge, justement à côté du quartier Beaubrun ou dans le quartier Beaubrun. Y a une soirée sur la condition animale et les l'éthique. Je ne sais plus exactement, mais c'est sur la manière dont sont traités les animaux et dont ils devraient être mieux traités, en gros. Et donc, c'est à la Cinémathèque à partir de 19h30, c'est gratuit. Il y a un film et puis une discussion avec un spécialiste du sujet. Le film, apparemment, comporte des images qui peuvent choquer.
Heureusement que ça choque.
Oui, parce que c'est la réalité, quoi. Ensuite, samedi matin, donc j'ai pas beaucoup plus d'infos, dès 8h30 du matin, au centre de détention de Roanne, donc nouveau centre de détention exemplaire, soi-disant. Devant ce centre de détention, il y aura une manifestation en soutien à une prisonnière basque qui est en grève de la faim. Donc ça, si vous voulez la soutenir, devant le centre de détention de Roanne, samedi 30, dès 8h, 8h30 du matin.
Qui sera en grève de la faim apparemment pour obtenir un rapprochement géographique.
Oui.
Non, c'est ça, ouais.
Bah parce que les détenus basques sont souvent éloignés, ils sont emprisonnés à Paris, à Dijon, ailleurs, et c'est pas facile pour leur famille. Sinon, il y a toujours l'Université solidaire qui continue à la fac, tous les mercredis à 18h30. Et donc le mercredi prochain, donc mercredi 3 février, il y a une intervention, discussion, débat autour de la France-Afrique avec l'association Survie. L'association Survie, c'est une association qui se bat pour essayer de changer les relations ou comment se passent les relations entre la France et l'Afrique. Alors l'Afrique, c'est grand, c'est un continent. On va dire que la France avec ses anciennes colonies, plus ou moins. Et donc, il y aura cette association qui sera présente le mercredi prochain, 3 février à 18h30, à l'amphi E01.
Et d'ailleurs, l'association Survie fait des émissions sur Radio Dieu de temps en temps. Enfin, c'est des mots des sons sensibles, l'émission de Lionel du lundi midi, qui donne la parole à l'association Survie régulièrement. Donc, si ça vous intéresse.
Et ensuite, toujours l'Université solidaire, le mercredi 10 février à 18h30, pareil, donc atelier musique et mathématiques animé par Benjamin Pruvot. Donc c'est à la fac de Tréfilerie, à l'amphi E01. Et le but ou le sens de tout ça, c'est de faire le rapprochement entre la musique, qui à premier abord a l'air d'être un art un peu spontané, dénué de tout calcul, de tout calcul, et ben de faire un rapprochement entre l'art musical et les mathématiques, l'art mathématique.
Wow, ça va être cool. Moi,
ça va être romantique, ouais, je pense.
Ça va être très sexy.
Ouais. Voilà. Donc pour l'agenda, c'est ce qu'on a à vous proposer.
Voilà. Donc c'était l'émission numéro 0, qui sera rediffusée à 17h aujourd'hui même sur Radio Dio 89.5 FM. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines, le jeudi à midi.
Et puis, n'hésitez pas à envoyer des infos, des coups de fil, des mails.
Voilà. Oui, par rapport à ce qu'on a dit ou autre chose, hein, n'oubliez pas que le site numéro 0, Internet, c'est un site... on peut dire que c'est un média, non ?
C'est un média participatif.
Oui. Et alternatif.
Oui.
Ben, on se quitte en musique. Salut, à 15 jours.
Salut.
À 15 jours.
Salut.